Donc on arrive au milieu. La semaine dernière, on a parlé un peu de l'unité de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, on va simplement regarder cette page blanche entre les deux. On va parler une introduction du Nouveau Testament. C'est la 14e heure. Et on commencera les évangiles la semaine prochaine. Et cette page blanche entre Malachie et Matthieu, ça correspond à 400 ans de silence. 400 ans de silence dans le sens où il n'y a pas eu de prophètes inspirés par Dieu qui ont reçu des paroles de Dieu pour son peuple, pour l'humanité. Et les Juifs ont vécu ces 400 ans de silence comme un temps de jugement de Dieu, de la part de Dieu. Et c'est vrai, je ne sais pas si ceux qui sont mariés connaissent cela, mais dans un couple, souvent on peut manifester son hostilité à ce qui se passe avec l'autre en criant, mais on peut aussi manifester son désaccord par un silence lourd, pesant.
C'est pire.
C'est pire, hein, souvent. Le traitement du silence est terrible pour moi. Et sans révéler trop de secrets avec Nancy, Nancy a facilement tendance à être silencieuse quand ça ne va pas. Moi, et ça me rend fou. Et les Juifs, c'était un peu ça aussi. Ils avaient l'impression que Dieu était en colère avec Dieu, avec eux. Et on a vu que le dernier prophète à avoir parlé leur avait dit qu'en fait, ils trichaient avec Dieu. Ils frustraient Dieu. Vous vous souvenez, parce qu'il disait qu'ils ne donnaient pas la dîme qu'il fallait. Ils ne montraient pas leur foi en Dieu. Et ces 400 ans de silence, c'est ce qu'on appelle aussi la période entre les testaments. Des fois, on parle de période intertestamentaire. Et s'il n'y avait pas de parole de Dieu révélée aux hommes par des prophètes, il se passait en revanche beaucoup de choses au niveau historique. Et l'empire perse, vous vous souvenez, on avait vu avec le prophète Daniel, que les Perses avaient remplacé Babylone. Et maintenant, ça va être au tour des Grecs, avec Alexandre le Grand, qui vont devenir l'empire dominateur de l'époque. Donc à peu près en 400 ans avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand, la date qu'on donne pour le début, c'est 334 avant Christ. Et ça va être un grand conquérant. On dira que son royaume a été jusqu'en Inde. C'était un redoutable guerrier, très brillant. Et il va mourir en voyage. Pendant ses expéditions, il va mourir de fièvre et ses généraux vont se partager son empire. Il avait plusieurs autres généraux, mais les principaux, c'était Ptolémée, Séleucus, Lysimaque et Antigone. Et en fait, de ces quatre, il y en a deux qui ont vraiment établi des dynasties. En Égypte, ça a été Ptolémée, et à Babylone, et dans le croissant entre le Tigre et l'Euphrate, ça a été Séleucus, les Séleucides. On parle des Ptolémaïques, des royaumes ptolémaïques de Ptolémée en Égypte, et puis des Séleucides, l'empire des Séleucides. Qui se sont battus pour avoir au niveau de leur influence réciproque Et ce qui est intéressant, c'est que l'endroit de rencontre de l'Égypte et de ces deux... En venant de l'Égypte pour Ptolémée, il y a toute une dynastie de rois de Ptolémée et les Séleucides, la même chose. Mais ils se retrouvaient, ils se battaient toujours en Palestine, en terre d'Israël. En terre promise, c'est là que ça se passait. Et puis, la famille des Séleucides a donné lieu à des rois qui s'appelaient Antioche. Et un de ces rois, ça a été Antioche Épiphane. Oui. Antiochus Epiphanis en anglais. Et lui, il s'est rendu odieux auprès des Juifs en violant la sainteté du temple, en mettant une truie sur l'autel, alors que les Juifs ne peuvent pas manger de porc. C'était une nourriture impure qui était amenée dans le temple. L'endroit dans le Saint des Saints, c'était vraiment une violation consciente, et à tel point qu'on parle de lui comme des fois d'un type, d'une préfiguration de l'Antéchrist qui va faire le même genre de choses à la fin des temps. Quand on lit l'Apocalypse, qu'on lit la période de la Grande Tribulation décrite notamment dans Matthieu 24 et dans l'Apocalypse. Et suite à ça, ça va être les Romains qui vont s'imposer, qui vont étendre leur zone d'influence vers la Palestine, à peu près à l'an 63 avant Jésus-Christ. Juste avant, il y avait une période un peu dorée des Asmonéens, des rois juifs indépendants qui étaient dont est issu le roi Hérode et la famille d'Hérode. Eux, c'était des Idouméens. Ils venaient d'Édom, de la famille d'Ésaü. Donc, ils n'étaient pas aimés par les Juifs, mais ils avaient au moins une indépendance vis-à-vis des grands pouvoirs, jusqu'à ce que les Romains viennent prendre encore une fois de plus le pouvoir dans cette région d'Israël. Et puis, en 4 ans avant Jésus-Christ, on l'a dit la semaine dernière, on pense que c'est l'arrivée de Jésus-Christ, sa naissance, le fait qu'il y avait un décalage au niveau du calendrier. Et donc, en fait, c'est une période silencieuse au niveau des prophéties, mais très riche historiquement. Il se passe des renversements, des luttes d'influence extrêmement, extrêmement fortes. Et dans tout ça, les Hébreux étaient un peu perdus. Ils étaient, pour certains, ils s'étaient éloignés de Dieu. Et ils essayaient tant bien que mal de profiter de ces mouvements d'influence, de politique pour vivre leur vie. Et il y en a d'autres, par contre, qui se lamentaient sur la situation, le silence de Dieu et sur tout ce qui se passait dans leur région, les combats. La langue qui était parlée à l'époque, on a dit que c'était après, il y avait encore... L'hébreu avait perdu de la vitesse, et l'influence grecque sous Alexandre avait fait que le grec était devenu l'anglais de l'époque. On pouvait aller partout si on parlait grec. C'est d'ailleurs intéressant de voir que certains pensent que Dieu a attendu qu'il y ait une langue comprise. Parler dans la majorité du monde de l'Antiquité, et qui est aussi un système de voies construites par les Romains qui ont permis la diffusion, les voyages, de la propagation de l'évangile, des évangiles, de la bonne nouvelle. Il y avait eu donc à l'époque, on parlait grec et araméen dans la région de d'Israël. Il y a quelques passages qui, dans l'Ancien Testament, comme dans Daniel, qui sont en araméen. Jésus disait quelques mots en araméen. Et sinon, le texte était rapporté dans les évangiles, c'était la langue grecque, et c'était pas du grec littéraire, c'était du grec commun, on appelait ça le grec koiné, le grec de monsieur et madame tout le monde. Et c'est intéressant de voir que souvent on pense que pour étudier les écritures, il faut être érudit, il faut avoir fait des longues études, étudier le grec, alors qu'en fait le grec qui était parlé, c'était le grec de monsieur et madame tout le monde, que c'était pas vu comme une langue sophistiquée. C'était, même si certains comme l'apôtre Paul manipulaient très bien la langue à l'époque, il y avait, on était passé de l'adoration au temple. Il y avait encore le temple qui allait rester jusqu'à l'an 70. Mais il y avait un nouveau lieu de culte, ce qu'on appelait la synagogue. Et la synagogue, c'est en fait... dès qu'on parle de synagogue, on pense aux juifs, et c'est normal. Mais le mot lui-même, ce n'est pas un mot juif, c'est un mot grec, synagogue. Ça veut dire aller ensemble, c'est l'assemblée. Et ça, c'était un reste de la période de l'exil, où il n'y avait plus de temple pour les juifs. Ils ne pouvaient pas aller au temple pour adorer Dieu. Et donc, ils se réunissaient, ils lisaient les textes, la Torah et les psaumes et les prophètes dans des lieux de réunion. Et vous savez que la religion juive interdisait les représentations de visages, de peintures. Donc, normalement, dans une synagogue, il n'y a pas de tableau, de peinture ou de représentation de Dieu ou des hommes. Mais j'entendais parler d'une synagogue qui se trouve au musée de Damas en Syrie. Ils ont reconstruit, c'était quelque chose qui venait de la région de l'Euphrate, où justement on voit que la religion juive s'était accommodée, et il y avait des représentations, il y avait des très belles peintures, et apparemment la synagogue avait été détruite, mais les murs avec les peintures étaient tombés sur le côté, donc ils ont pu retrouver et ressortir les couleurs. Et il paraît que quand on va à Damas, il faut aller voir cette synagogue qui a été transportée. C'était pas très grand, c'était peut-être là comme la moitié de cette pièce. Mais ça, c'était devenu l'endroit. Et donc, on va voir Jésus qui part dans les synagogues, qui va au temple. Quand on va en Israël, on peut voir des synagogues où Jésus a prêché. Et puis aussi les marches du temple sur lesquelles on est certain qu'il a foulé de ses pieds en parlant à ses disciples et aux foules. On a parlé déjà de la Septante, la traduction de 72 sages juifs qui habitaient en Égypte, à Alexandrie, et qui ont traduit les textes hébreux en grec pour pouvoir les rendre accessibles au plus grand nombre, même des juifs qui de plus en plus ne parlaient plus l'hébreu, mais seulement le grec ou l'araméen. Ça, c'est un peu pour donner le climat dans lequel Jésus va arriver. Vous avez entendu parler des Maccabées. Alors maintenant, l'expression Maccabée en France, ça veut dire un cadavre, de façon étrange. Mais les Maccabées, c'était des juifs zélés qui se sont révoltés contre... D'abord contre Antioche les Séleucides, ces rois qui, descendants d'un des généraux d'Alexandre le Grand, et surtout, ils s'étaient vraiment... Ils exécraient, ils détestaient cet Antioche Épiphane qui avait profané le Saint des Saints dans le temple. Et donc, ils se sont battus contre ces Séleucides. Et dans la foulée, ils se sont battus aussi contre les Romains qui sont venus en tant qu'envahisseurs aussi venir prendre le pouvoir dans cette région. Et c'est à cette occasion qu'ils se sont battus à Masada. Masada, c'était la résidence d'été du roi Hérode, qui était le Hérode le grand bâtisseur. Il y a toute une dynastie des rois Hérode, on en reparlera dans Matthieu. Et il avait... Près de la mer Morte, il y a une grande colline qui a des comme un éperon rocheux. Il faut à peu près 30 minutes pour monter. Il y a un sentier qu'on peut monter à pied. En courant, on peut monter ça en 30 minutes. Et où on prend l'ascenseur, le téléphérique. Et de là, on a une vue sur toute la région, et c'est là que le roi Hérode avait fait construire une résidence d'été. Mais c'est là aussi que les Juifs qui luttaient contre l'envahisseur romain se sont réfugiés. Et les Romains ont décidé qu'ils ne pouvaient pas laisser ces Juifs. Même sur ce bout de terrain qui ne servait pas à grand chose, ils ont assiégé pendant longtemps Masada, et Masada est devenu un symbole de la résistance juive. Finalement, il y a eu un siège, et quand on va là-bas, on peut voir la façon dont ils ont amené du remblai, des terrains, pour pouvoir faire monter des troupes. Donc cet éperon rocheux, ils ont avec leurs moyens de terrassement et surtout beaucoup d'hommes, ils ont amené des tonnes et des tonnes et des tonnes de matériaux pour faire une rampe. Et finalement, ils sont rentrés dans la cité qu'on visite aujourd'hui. Et là, ils ont trouvé en fait que tous les Juifs s'étaient suicidés plutôt que d'être captifs. Et le mot Masada est devenu un symbole de la résistance, des Juifs. Et aujourd'hui encore, c'est quand on dit on fera comme un Masada, les Juifs ne vont jamais se laisser enfermer, prisonniers, prendre. Et donc tout ça, c'était pendant cette page blanche. Encore une fois, Dieu ne parle pas, mais les hommes bougent beaucoup et Dieu est à l'œuvre dans ce qu'il, comment il arrange les choses. Et
c'était pendant ce temps, dans ce conflit, où ils sont allumés le menorah.
Ah, ça, c'est une bonne question. Ça, c'était la fête de Hanouka. C'est qu'il n'y avait plus de... C'était contre les Séleucides, il n'y avait plus assez d'huile pour faire brûler la lampe à sept branches. Mais ils ont prié et Dieu a répondu en faisant que la lampe puisse continuer à brûler. Et donc la fête qu'on célèbre, qui est souvent proche de Noël, c'est en commémoration de ce miracle qui n'est pas rapporté dans la Bible, mais qui, par la tradition, sans doute par les écrits talmudiques, raconte ce miracle de la menorah qui a continué à brûler. Voilà, donc, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi Jésus est venu à cette époque. précisément à cette époque-là. Il aurait pu venir aujourd'hui, maintenant il aurait pu aller à la télé, avec Internet. Ou... J'ai bien sûr pas de réponse, mais déjà il y avait au moins, dans le sens où il y avait une grande possibilité de transmission des informations avec les routes et avec les... Avec la langue grecque qui était parlée par beaucoup de monde, c'était déjà un moment propice et favorable. Et en fait, les conditions étaient remplies pour que Dieu inaugure en fait une nouvelle alliance. Et le Nouveau Testament, en fait, il était prophétisé dans l'Ancien. Vous vous souvenez de quel prophète a parlé du Nouveau Testament ? Quel est l'autre ? Jérémie. Je suis d'accord avec vous, tous les autres en ont parlé, mais un qui utilise le texte même... L'expression même, c'est pas, il parle pas de Nouveau Testament, il parle de Nouvelle Alliance, c'est Jérémie 31:31. Et là, on peut regarder, page 777 dans la Bible de la Colombe. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, ou ainsi parle l'Éternel. Où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, une nouvelle alliance, un nouveau testament. C'est ce que veut dire la traduction testament, même si maintenant, pour nous, un testament, c'est ça, un rapport avec quelqu'un qui meurt et qui laisse en héritage quelque chose. C'était simplement une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ainsi parle l'Éternel, etc. Alors il y a une dimension bien sûr prophétique, ultime, mais en même temps c'est « Voici que les jours arrivent ». Et c'est Jérémie qui disait, même si ça n'allait pas arriver avant 400 ans plus tard, je vais conclure une alliance nouvelle. Et on sait que cette alliance, elle n'était plus basée sur la capacité de ceux avec qui l'alliance était faite de tenir les engagements, mais c'était Jésus lui-même qui tenait tous les engagements. Et le vin est le symbole de cette nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance, etc. Donc, on arrive à cette période où toutes les conditions sont réunies pour que Jésus arrive sur la scène et sur la terre. Et vous savez donc que le Nouveau Testament... est composé de différents types de livres. Il y a les évangiles, dont le mot est simplement une déformation du mot qui veut dire en grec « bonne nouvelle ». Donc il y a 4 évangélistes. Il y a ce qui sont des livres historiques, en fait, même si certains sont plus ou moins... basé sur des récits de faits précis. L'évangile de Jean est plus des fois plus général, mais c'est tout basé sur la vie de Jésus. Et ensuite les actes des apôtres qui continuent la partie historique du Nouveau Testament. Et puis ensuite, donc c'est la fin de la vie de Jésus, ou le départ de Jésus pour les cieux, et la mise en place de l'Église, la naissance de l'Église, l'évangélisation par les disciples. Et puis, dans ce livre des Actes, on voit qu'il y a un certain Paul qui arrive sur la scène et qui va prendre la pré-séance, qui va être le personnage principal après celui de l'apôtre Pierre, qui au départ semblait être le responsable le plus influent parmi les disciples. Il est important de noter que il fallait, parce que il y avait eu des témoins oculaires, des gens qui avaient vu les faits, qui avaient vu Jésus. On se souvient que Jean disait, nous avons vu, nous avons touché, nous avons entendu, dans 1 Jean par exemple. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vu. 1 Jean, c'est page 269. 1 Jean 1. 1. Nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et donc, il se décrivait comme un témoin oculaire. Pierre disait que lui aussi avait contemplé le Fils de Dieu lorsqu'il avait dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Donc, ces témoins oculaires ont voulu laisser un texte rappelant ces événements. Un texte fiable. Et c'était soit des disciples de Jésus-Christ, comme Matthieu et Jean, ou bien des compagnons de ses disciples, comme Marc, qui était très proche de Pierre, ou Luc, qui était très proche de Paul. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces évangiles va décrire, on y reviendra la semaine prochaine, si vous voulez, chacun des évangiles révèle, je vais y arriver, un aspect bien défini de ces mêmes événements. Et c'est un peu comme si on avait plusieurs reportages sur les événements de la vie de Jésus. Alors il y a des théories qui sont apparues au 19e siècle, ce qu'on a appelé la haute critique, essentiellement d'abord en Allemagne, qui ont essayé d'analyser les textes, les évangiles, pour voir les parties qui étaient reprises dans d'autres évangiles. Ils ont élaboré une théorie où il y aurait eu une autre source indépendante de ces quatre, qui aurait été ce qu'ils appellent « quelle » en allemand, qui aurait été la source, mais ça c'est vraiment des spéculations, et je crois que on peut remercier Dieu qui nous a donné 4 récits. Et un peu comme des témoignages d'un événement, avec plusieurs points de vue, on arrive vraiment à se faire une idée bien exacte de ce qui s'est passé. S'il y a une seule personne qui raconte une histoire, on peut dire qu'elle était peut-être un peu impressionnée par ceci ou par cela. Mais le fait que ce soit 4 récits différents, plus le livre des Actes, ça nous donne l'assurance que ce qu'on a est très, très fiable. Les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, on les appelle des fois les évangiles synoptiques, parce qu'ils décrivent ensemble, font ensemble la vision de pratiquement des mêmes événements où ils sont repris souvent, alors que l'évangile de Jean est plus élevé, dans le sens où il repart au commencement était la parole, il y a des informations qui dépassent le récit historique et qui parlent surtout de Jésus comme étant le Fils de Dieu. Matthieu, on a dit qu'il présentait Jésus comme le roi des Juifs. Marc, il écrivait pour les Romains de l'époque. Et son style est différent. Matthieu écrit pour les Juifs. Il fait beaucoup de références au fait que Jésus remplit les prophéties des prophètes juifs. Marc, il parle beaucoup de l'activité de Jésus, de tout ce qu'il faisait et comment il allait en faisant du bien. Luc, c'est plus le fils de l'homme, c'est-à-dire l'homme parfait. Et on le voit aussi grandir en stature, et etc. Mais c'est... Et on y reviendra, on peut voir ces quatre différences, les reconnaître dans d'autres éléments de bibliques. Et donc, avant sa mort, Jésus avait dit qu'il allait bâtir son Église, ça c'est Matthieu 16, 18, qu'il allait envoyer son Esprit Saint dans Jean 15. Et cette promesse s'est réalisée dans le livre des Actes, quelque temps après son ascension, dans Actes 2. Et c'est là qu'on voit la naissance de l'Église à Jérusalem. D'abord des disciples de Jésus et des Juifs, et puis elle va s'étendre. Et les livres des Actes vont montrer combien l'Église... primitive, pour dire l'Église du début, a vite grandi. Et on voit les voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Le centre de l'Église de l'époque va bouger de Jérusalem vers Antioche, qui va devenir le point de départ de beaucoup d'activités missionnaires. Et puis... L'autre partie donc du Nouveau Testament, ce sont des lettres, des courriers que s'envoyaient ces premiers chrétiens, qu'envoyaient les responsables de l'Église, les apôtres ou bien des personnes proches des apôtres, qui les envoyaient à des églises où entre eux ils s'écrivaient. Et ça c'est le reste pratiquement de la Bible, du Nouveau Testament. Après les récits historiques, il y a tout le courrier que s'envoyaient les apôtres. Donc on a les épîtres de Paul, qui en a écrit 13 ou 14 sur les 27 livres que compte le Nouveau Testament. Parce que certains pensent que Hébreux n'a pas été écrit par lui, d'autres pensent qu'après tout ça doit être lui. J'aurais tendance à penser que c'est aussi de Paul, mais il n'y a pas de preuve formelle, et c'est plutôt un parti pris de savoir est-ce que c'est lui ou pas. Et puis, on a ce qu'on appelle les épîtres générales de Jacques, de Pierre, de Jean. Et puis... À la fin, il y a ce qu'on appelle l'Apocalypse, et c'est un type de récit différent. C'était une littérature qui existait déjà, qu'on appelle apocalyptique, c'est la révélation, c'est-à-dire la révélation de ce qui va se passer. C'est un peu l'équivalent des prophéties de l'Ancien Testament. Et ces lettres, des fois, c'est en réponse à des problèmes qui se passent dans... telle ou telle communauté, dans telle ou telle église, comme les lettres aux Corinthiens, qu'il y avait des problèmes dans l'église. On a vu à Colosse, il y avait cette hérésie, gnosticisme, qui se développait. Donc, les apôtres envoyaient ces lettres, et ils ne les mettaient pas sur Internet, ou ils ne les mettaient pas à la poste, ils devaient les faire transmettre par des personnes qui les portaient, qui, qui amenait les salutations, etc. Donc on voit tous toute cette correspondance. Des fois, c'est aussi, on le verra ça plus en détail, des textes qui sont fondateurs, qui expliquent la foi chrétienne, comme la lettre de Paul aux Romains, qui explique le salut par la foi, le salut, la justification, la sanctification, la glorification. Mais c'est donc toute cette littérature qui est ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Et au niveau historique, le livre des Actes se termine avec On laisse l'apôtre Paul, qui recevait encore tous ceux qui voulaient venir le voir. Il prêchait le royaume de Dieu, enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance et sans empêchement. C'est intéressant, c'est là que s'arrêtent les récits historiques dans la Bible. Après, maintenant, on sait qu'il y a toute l'histoire de l'Église qui a continué, et on a d'autres sources, ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire des responsables de l'Église après les apôtres, qui ont fait beaucoup de textes et de lettres et de récits. Et puis ça rejoint l'histoire, mais c'est plus des textes inspirés comme au temps du Nouveau Testament. Alors on a dit que l'autorité d'un texte dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'était qu'il fallait, il fallait qu'il y ait quoi pour qu'un texte soit reconnu comme inspiré? On a parlé d'autorité prophétique. Il fallait qu'il y ait que ce soit reconnu comme ayant été écrit par quelqu'un qui était comme un prophète ou comme Moïse, même si il ne faisait pas partie des grands prophètes, mais c'est ce qu'on appelait l'autorité prophétique. Par contre, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, ce qui contribue à établir qu'un texte est reconnu comme faisant partie du canon de l'ensemble des textes inspirés, c'est ce qu'on a appelé l'autorité apostolique. Donc il faut que ça ait été écrit ou par un des apôtres même ou par quelqu'un proche des apôtres, comme on a parlé de Marc ou de Luc, qui n'était pas parmi les 12 apôtres ou les 13 apôtres quand on inclut Paul, mais qui était très proche, donc c'était un peu la garantie de l'authenticité, de l'inspiration. Et l'inspiration, c'est pas quelque chose qu'on détermine, plutôt qu'on décide, c'est quelque chose qu'on reconnaît sur un texte. Et c'est vrai qu'il y a des livres comme les Maccabées 1 et 2 qui font partie de la Bible catholique, mais qui ne sont pas reconnus comme étant inspirés. Et il y a eu des réunions, on en a parlé, je crois déjà, de l'Église au début de l'ère chrétienne, pour savoir quels étaient les textes à admettre comme étant des textes inspirés. On avait parlé de Jérôme, qui avait écrit la Vulgate, et lui-même disait que certains des textes, comme les Maccabées, n'étaient pas des textes inspirés, mais c'est l'Église catholique, dans les années au XVIe siècle, oui, Concile de Trente, qui a, en réaction contre la Réforme, qui a ajouté des livres qui n'étaient pas considérés comme inspirés par les réformateurs, qui les a mis exprès pour dire non, ça c'est bien des textes, et si vous les y croyez pas, vous êtes excommuniés, etc. Mais ça, c'était des péripéties un peu historiques. Alors, le Nouveau Testament, une des questions, justement, au propos des textes, c'est comment est-ce que le Nouveau Testament est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est toujours intéressant de voir comment la Bible a été établie, comment elle a été préservée, comment elle est venue jusqu'à nous, comment elle a été traduite. Et il y a une chose intéressante, c'est de savoir qu'on a retrouvé beaucoup de textes, ce qu'on appelle des manuscrits, donc qui étaient soit sur des matériaux faits par de base animale, comme des peaux d'animaux, des peaux de veaux, de vaches, du cuir, ou bien sur des papyrus, sur des sources végétales. Mais aujourd'hui, on compte près de 23 000 fragments ou morceaux des évangiles. La plupart à l'origine, les textes qu'on avait, c'est ce qu'on appelait les manuscrits byzantins, parce qu'ils ont été retrouvés à Byzance. Byzance, c'est Constantinople ou Istanbul aujourd'hui. Et plus tard, on a retrouvé des textes qu'on a de la région d'Alexandrie, qu'on a appelé les manuscrits alexandrins. Et il s'avère que ces textes qui ont été trouvés plus tard sont aussi plus âgés. Et on pourrait penser que, étant donné que ce sont des textes plus anciens que les textes byzantins, qu'ils sont plus proches ils sont plus fiables, car ils sont plus anciens, donc plus proches de l'original. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est pas une garantie. Le fait qu'un texte soit plus ancien qu'un autre texte, si cet autre texte a été bien préservé par rapport à l'original et que le texte plus ancien avait déjà été déformé, c'est pas une garantie. L'ancienneté ne veut pas dire que c'est une garantie. Et c'est le fameux débat entre les textes alexandrins et les textes byzantins. Alors les textes byzantins, c'est ceux qui ont donné la Bible du roi Jacques, par exemple, le King James, sont basés sur ces textes byzantins. Les textes alexandrins, c'est ceux qui ont donné la Bible seconde en Europe, en France, en Suisse, en France. C'est ceux qui ont donné aux États-Unis la NIV, la New International Version, ou bien la NASB, la nouvelle version américaine standard, et d'autres familles de traductions. Et certains pensent qu'en fait le texte de la King James, ce qu'on appelle le texte qu'on a recueilli, s'appelle le Textus Receptus, le texte reçu, est plus vrai que les manuscrits plus récents. Et qu'en fait la King James, pour parler en anglais, est plus fiable que la NIV. Et donc c'est tout un débat. Et ça ne serait pas très important si, en fait, on s'aperçoit que les manuscrits alexandrins sont moins forts pour annoncer le fait que Jésus est Dieu. Le fait qu'il y a plus de passages où, lorsque c'est clair dans la Bible King James ou dans les textes byzantins que Jésus, fils de Dieu, il y a des fois où on n'a plus cette notion dans les textes, les autres textes. Alors c'est tout un débat. C'est juste à titre pour que vous sachiez de quoi il s'agit quand vous entendez parler de ces débats sur la Bible King James et les autres. Alors ce qu'on fait aussi, on a modernisé maintenant il y a la nouvelle King James. Et des fois les gens se demandent, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de traductions alors que le Coran, on a le texte arabe et on le change pas, sauf que maintenant il y a des traductions en français, on peut avoir. Et la nécessité, c'est aussi que, en fait, le langage évolue. Et là, on a j'utilise la nouvelle version second révisée, dite Bible à la Colombe, qui date déjà de 1992. Depuis, on a deux autres traductions à partir de la même Bible Second, qui essaye de prendre en compte les derniers documents trouvés, qui s'appelle la Nouvelle Second, et puis la Nouvelle Bible Second. Il y a deux versions qui sont sorties dans les dernières années. Il y a d'autres Bibles. Mais le langage évolue. Par exemple, j'avais une vieille... Ma première Bible qu'on m'avait offerte quand j'étais enfant catholique, on ne l'avait jamais ouverte pour me la faire lire. Mais on me donnait ça un peu comme on donnerait une relique ou quelque chose. Et ça utilisait beaucoup le... Au lieu de dire je ne fais pas ça, on disait je ne fais point ceci. Et donc c'était un langage vieilli. Donc il y a besoin de mettre à jour le langage, surtout quand on sait que le langage original, le grec, c'était un langage de tous les jours, c'était pas un langage pompeux comme la King James, ou c'était le langage que parlaient les gens, commun. Et puis, quand on traduit, en fait, il y a deux types de traductions. Soit on traduit mot à mot, chaque mot qu'on trouve dans la langue d'origine est traduit par un autre mot. Soit on fait une traduction plus lisible, plus en rapport avec la langue parlée dans laquelle on traduit. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne va pas pouvoir garder le texte très proche de l'ancien. Alors quand on sait que la Bible est inspirée verbalement, c'est-à-dire que les mots qui sont utilisés, c'est intéressant de savoir quels sont les mots qui ont été utilisés dans le texte original. Donc on peut préférer, par exemple, j'aime bien la Bible Second parce qu'on peut voir justement s'il y a un mot en grec, il va y avoir un mot en français. Alors que d'autres versions vont changer les mots pour essayer de garder les idées. Soit on reste près du texte, soit on essaye de rendre les idées du texte avec un langage plus approprié dans la nouvelle langue. D'où la multiplicité des versions bibliques. Et puis ça ne s'arrête pas, quoi. Il y a toujours des nouvelles versions qui viennent. Alors c'est important d'avoir une base solide et ne pas... Parce qu'il y a des sectes aussi qui ont fait des traductions. Et la Bible du Nouveau Monde, ça c'est pas une bonne traduction, c'est la Bible des Témoins de Jéhovah. Les Mormons, eux, ils ont carrément ajouté un autre livre, le livre de Mormon, un ange qui aurait reçu d'autres nouvelles. Mais ça, c'est les différentes... La raison pour laquelle il y a tant de traductions...
C'est quand il dit comment Dieu va, après Jésus, il y a toujours Jésus comme... Je ne peux pas considérer Jésus comme Dieu, il dit Jésus
tout
comme
à fait,
Dieu.
Oui.
Et la plus différente, c'est qu'ils disent qu'il est mort sur un poteau, pas sur une croix.
Oui. Oui, oui, non, alors c'est important de savoir un peu le fait qu'on a des Bibles qui viennent qui sont basées sur différents textes. Mais ça devient un peu du travail de spécialiste, parce que même dans les textes alexandrins, les manuscrits alexandrins qui nous ont donné la NIV, qui nous ont donné la NASB, la Nouvelle American Standard, on sent que il n'y a pas de doute que Jésus est Dieu, tout ce qu'il dit, mais ça a été un débat, ça pourra le rester.
C'est quelle religion qui utilise, quelle secte qui utilise la NIV?
Alors ça, c'est pas des sectes, si tu veux, c'est simplement des choix d'église qui décident d'utiliser. Souvent, ça peut être parce qu'il y a une bonne Bible d'études qui est publiée avec ce texte. Et la NIV, justement, avait une très bonne Bible d'études qui était appréciée par beaucoup. Donc, après, c'est comme... Là, j'aime bien avoir, pour les gens qui viennent, qui ouvrent une Bible pour la première fois, ils lisent dans leur livre quelque chose et puis que le texte que je lis est différent, ça va, et on dit, c'est pas la même chose, de quoi on parle, comment ça se fait. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ça, ça se rapproche beaucoup de la NASB, parce qu'on peut, faire une analyse de mots, mot à mot, et voir. Après, il y a toute à notre disposition des tas de ressources, même sans connaître le grec ou l'hébreu, et avec Internet, maintenant, il y a accès à des... Si c'est des choses qui vous intéressent, moi-même, je découvre des fois des choses vraiment très, très riches, des choses qui sont à la portée de quelques clics, alors qu'en fait, c'était des... Il aurait fallu des bibliothèques entières et les CD, etc. Le Nouveau Testament a donné lieu à des analyses, un peu comme depuis que les ordinateurs sont sortis, il y a même des gens qui ont commencé avant ça. On a parlé des séquences de lettres équidistantes dans l'Ancien Testament, que si on prend... la Bible dans un texte hébreu original. Alors on n'a pas l'original, mais on a des textes. Encore une fois, on a des textes, ce qu'on appelait le texte des Masorètes. Les Masorètes, eux, c'était eux qui faisaient la copie des textes. On a parlé du fait qu'ils prenaient le plus grand soin pour copier les textes, qu'ils comptaient le nombre de lettres, etc. Et qu'on avec la découverte de Qumran, on s'est aperçu qu'en fait, les textes qui dataient de 900 ans après, les textes 900 ans plus tôt n'avaient pas changé, parce que ces Masorètes avaient exercé leur ministère de copie. Masorètes, ça veut dire transmission. Ils avaient transmis le texte avec comme si leur vie en dépendait. Et c'est eux qui ont rajouté les points voyelles, parce que l'hébreu, comme certaines langues indo-européennes, n'avait pas de voyelles. Dans l'écriture, on ne mettait que les consonnes. Et en hébreu aujourd'hui, les mots se reconnaissent par une racine de trois lettres, de trois consonnes. Et parce que les gens savaient comment on prononçait... Et donc, on n'avait pas besoin de mettre toutes les voyelles. Je ne sais pas si vous avez reçu, mais je pourrais vous envoyer un texte qui montre en fait que notre esprit, notre cerveau est capable de reconnaître des textes, même si le texte est un peu mélangé, si les caractères sont un peu mélangés. Du moment que le premier et la dernière lettre du texte est bien respectée, On peut corriger, parce qu'on s'attend, on cherche un mot, on garde pas lettre à lettre. Quand on lit, on reconnaît les mots plus. Mais ça, c'est eux donc qui ont inscrit ces points. Et donc on peut faire des recherches sur le texte hébraïque, pratiquement comme l'original. Et là, on avait parlé du fait qu'il y avait des lettres qui étaient répétées. On pouvait lire des textes comme le mot Torah, par exemple, qui veut dire qui représente les cinq premiers livres de la Bible. On peut le retrouver dans la Torah elle-même, toutes les 70 lettres. Et ça devient fabuleux, parce que les chances de pouvoir... Alors certains accordent beaucoup d'importance à ces codes secrets dans la Bible. Pour moi, ils ne sont pas essentiels, mais c'est intéressant, même à titre anecdotique, de voir qu'en fait, même Dieu a peut-être signé sa parole en incorporant ces lettres qui se répètent, ces lettres qui ont une signification, alors, avant même qu'on dispose d'ordinateurs. Aujourd'hui, sans les ordinateurs, on serait incapable déjà de reconnaître certains de ces phénomènes. Il faut les ordinateurs pour s'apercevoir que si on regarde tous les 777 lettres ou les 7 lettres, il y a des textes qui y apparaissent. C'est ce qu'on appelle du microcode. Il y a du macrocode. On a parlé de la Genèse 5, où les noms des patriarches annoncent déjà la bonne nouvelle de l'Évangile. Et dans le Nouveau Testament, il y a un dénommé Ivan Panin, qui était un Russe qui avait immigré aux États-Unis dans les années au milieu du 19e siècle. Il est né en 1855 et puis il s'est converti en 82. Il a fait Harvard et puis il a En 1890, il a fait des tas de découvertes sur des phénomènes mathématiques dans le Nouveau Testament. Il a aussi fait des études sur l'Ancien Testament, mais il a trouvé, encore une fois, il a cette structure heptadique, ça vient de hepta, 7, le fait que le nombre 7 se retrouve non seulement dans beaucoup de livres de la Bible, le sabbat c'est le septième jour, il y avait les sept années d'abondance, sept années de disette, dans la marche autour de Jéricho, il y avait sept prêtres avec sept trompettes. L'année de sabbatique pour la terre, c'était 7 fois 7, 49. C'était tous les. Donc, cette structure du nombre 7, elle se retrouve partout dans la Bible. Salomon a bâti son temple en 7 ans. Naaman, le roi, le général syrien qui avait la lèpre, a dû se tremper 7 fois dans le Jourdain. Dans l'Apocalypse, il y a les sept églises, il y a les sept lampadaires, il y a les sept sceaux, les sept trompettes, les sept bols, les sept étoiles. Et ça, c'est un peu le macrocode qui parle ouvertement des sept. Mais il a aussi trouvé des tas de structures basées sur le nombre 7. Ça, c'est un peu anecdotique. Certains accordent beaucoup d'importance à ça, et c'est bon de savoir qu'il y a des recherches et qu'on peut. Et après, par exemple, quelles étaient les femmes dans la généalogie de Jésus ? Tamar, Rahab et Ruth, puis Marie, mais enfin Tamar, Rahab et Ruth. Et vous savez qu'il n'y avait pas de chiffre arabe pour les Hébreux ou pour les Grecs. Ils utilisaient des lettres pour désigner les chiffres. Par exemple, la leçon 6. C'est la leçon Vav, qui est la sixième lettre de l'alphabet. On remplace les chiffres par les premières lettres de l'alphabet. Et donc, on peut donner un équivalent chiffré ou non. Et c'est ce qu'on appelle donc la géométrie, pas la géométrie, mais le fait qu'il y a une valeur numérique pour les noms qu'on trouve dans la Bible, basée soit sur les lettres en hébreu, soit sur les lettres en grec. Et pour les noms de ces sept, des trois femmes mentionnées dans la généalogie, le nombre, si on lit les noms en grec, comme c'est fait dans Matthieu, on trouve 7 fois 2, c'est un multiple de 7. Il n'y a qu'une cité qui est nommée dans Babylone, qui c'est Babylone qui a sept lettres, mais il y a plein de. Je lis pas tout le détail, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a des gens qui. Et d'autres qui disent oh, c'est formidable. Il y a des livres qui ont été publiés là-dessus. Et maintenant, avec les ordinateurs, il y en a qui s'en donnent vraiment à cœur joie. Et on connaît, dans les églises Calvary, il y a ce spécialiste de biblique, Chuck Missler, qui se régale avec tous ces chiffres et toutes ces données.
Calvary, c'est ça.
C'est pas pour rien, tu vois. Frédéric, ah non. juste une dernière chose, c'est de parler un peu de. On a parlé un peu de la géopolitique de l'époque, mais qu'est-ce qui se passait à l'époque du Nouveau Testament dans le judaïsme là-bas, à Jérusalem et dans la région, il y avait plusieurs groupes, ce qu'on appelait des sectes, pas dans le sens où on pensait qu'ils étaient, ils allaient prendre des enfants et les manger, mais des groupes, des séparations dans la foi judaïque. Alors il y avait les scribes, et c'est des termes qu'on doit connaître parce qu'ils vont revenir lorsqu'on lit les évangiles. Les scribes, c'était en fait, on pourrait dire, les traditionalistes. Ils recopiaient, c'est eux qui copiaient les écritures de l'Ancien Testament. Ils faisaient ça de façon sérieuse. Plus que sérieuse, c'était comme un ministère. Ils se lavaient les mains de façon cérémoniale. Ils utilisaient les meilleurs supports disponibles. On leur doit beaucoup parce que c'est par eux qu'on a eu la Bible, l'Ancien Testament. C'était souvent des hommes de loi, des avocats. Quand ils ne faisaient pas de la copie, ils étaient là parce qu'ils savaient écrire. Ils pouvaient donner des textes de loi ou des contrats ou des testaments. Donc ça, c'était les traditionnalistes. Les pharisiens, c'était ce qu'on pourrait dire les légalistes. Hein. On a parlé du légalisme il n'y a pas longtemps. Leur nom signifie qu'ils étaient séparés. Et ils voulaient que leurs enfants connaissent l'Ancien Testament. Donc c'est eux qui avaient en exil créé les synagogues pour enseigner la Bible. Et ils avaient des versets bibliques attachés à leur front, à leur poignet, dans des petites bourses ou des petites boîtes qu'on appelle des phylactères, comme le mot qui désigne les bulles dans les bandes dessinées. Mais c'est simplement une petite boîte pour conserver. Et eux, ils sont tombés dans le légalisme. C'est-à-dire qu'à la loi de Moïse, par exemple, on en a parlé, tu obéiras le sabbat, ce sera un jour pour le Seigneur de repos. Ils ont ajouté plein de choses qui n'étaient pas dans la parole, mais ils aimaient bien pinailler. Ils ajoutaient qu'en fait, il fallait, si on faisait 300 pas, c'était pas du travail, mais si on en faisait plus, ça devenait un travail. Donc on pouvait marcher de telle distance, mais pas plus loin. On pouvait porter un peu de sel, mais si on en portait trop, c'était du travail. Donc c'est pour ça que Jésus leur disait, vous êtes des hypocrites, vous allez mesurer les épices, mais vous êtes prêts à avaler n'importe quoi. Dans la vie avec Moïse, plutôt ils appliquaient la loi de Moïse, et ils vont être en conflit avec Jésus. Et pour eux, le salut, c'était par les œuvres. Il fallait non seulement être circoncis, mais il fallait aussi respecter les lois. Et ils étaient vraiment, c'était pas la liberté, c'était vraiment lourd à porter. Et on comptait jusqu'à 7 types différents de pharisiens. Il y en avait même qu'on appelait les pharisiens sanglants, parce que il était dit que s'ils ne voulaient pas tomber dans l'adultère, donc ils se cachaient les yeux, mais ils se cognaient dans les murs à cause de ça. Et ça devenait un peu ridicule pour certains. Il y avait quand même on leur doit beaucoup aussi parce qu'ils ont préservé la parole, et il y avait des bons pharisiens à qui vous pensez quand on parle de bons pharisiens? Ouais, il faisait partie du Sanhédrin, c'était un des docteurs de la loi, comme on disait, et ils n'étaient pas tous sans se repentir et sans réaliser qu'en fait ils étaient allés trop loin, quoi. Donc les scribes, les pharisiens, il y a fait aussi les sadducéens, c'est ce qu'on pourrait dire que c'était les rationalistes de l'époque. Ils avaient une tendance libérale dans le sens où ils ne reconnaissaient que les 5 premiers livres de la Bible comme étant inspirés. Ils ne croyaient pas à la résurrection ni aux anges, contrairement aux pharisiens. Et ils étaient beaucoup imbus de leur propre justice, quoi. Ils pensaient que eux seuls faisaient bien les choses. Et c'était généralement des gens riches, des gens qui avaient des ressources, des terrains, des maisons, des patriciens. Donc ça, c'était les Sadducéens. Il y en avait qui on appelait les Hérodiens, du nom de la dynastie d'Hérode. Et eux, ils voulaient rien changer. Ils voulaient que les choses ne changent pas. Les immobilistes, en un sens. Parce qu'ils avaient des bonnes positions dans la société grâce à leur... ils ne voulaient pas que ça change. Donc, même si souvent ils avaient des bonnes relations avec l'occupant romain, et les juifs les détestaient parce que ils soutenaient le roi Hérode pour pas que ça change, alors que Hérode n'était pas juif, il était idoméen. Et c'était un autre groupe. Les deux autres groupes dont on peut parler, c'est les Zélotes. Les Zélotes, c'était les insurgés, les terroristes de l'époque. Et eux étaient prêts à se battre contre les Romains. Ils étaient activistes en politique. Et ils voulaient vraiment se débarrasser des Romains. Ça, c'était un autre des groupes religieux, politiques de l'époque. Et puis un dernier groupe dont on a beaucoup appris après la découverte des grottes, des manuscrits de Qumran, c'est ce qu'on appelle les Esséniens, les Essènes ou Esséniens. Et eux, c'était des isolationnistes. Eux, c'était un peu pour vivre heureux, vivons cachés. Ils ne voulaient pas vivre avec le reste de la société, ils voulaient vivre entre eux. Et pour eux, la meilleure solution, c'était de se cacher. Et quand on visite Israël, on peut voir beaucoup de grottes dans certaines régions montagneuses qui étaient habitées par ces Esséniens. Et c'est eux aussi qui se cachaient près de la mer Rouge. Et là, c'est eux qui avaient qui avaient écrit ou conservé les manuscrits qu'on a retrouvés à Qumran en 1947. Donc ça, c'était les différents groupes qui vont apparaître et avec lesquels Jésus va devoir à se confronter. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les zélotes, les esséniens. On ne parle pas des esséniens dans la Bible, c'est surtout le mot n'est pas connu dans la Bible, mais c'est après la mer morte qu'on les a connus. Et on pense que Jean-Baptiste lui-même, qui vivait un peu à l'écart comme un reclus, qui, vous souvenez, il était habillé de vêtements en poils de chameau, qui mangeait des sauterelles avec du miel, c'était peut-être un de ces Esséniens. Et ça, c'était le panorama de l'époque qui va s'ouvrir avec le récit de Matthieu. On verra la semaine prochaine la chronologie des livres, c'est pas nécessairement l'ordre de la Bible. Et en fait, le vrai test de la vérité du Nouveau Testament, est-ce que c'est la découverte des manuscrits? Est-ce que c'est la découverte de la structure heptadique, de la présence du nombre 7 de partout? Ou qu'est-ce que c'est, à votre avis, qui fait que vous êtes prêt à croire au Nouveau Testament?
La vie de Jésus. Témoignage.
Ouais.
Le
la façon dont elle parle directement à nous.
Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose, quand on lit les, on peut lire les textes apocryphes, c'est, ils sont intéressants parce qu'ils peuvent avoir des événements, des éléments historiques qui nous permettent de mieux connaître la période, mais ça nous touche pas comme quand on lit un passage de la Bible. Et je crois que Jésus lui-même a dit, dans Jean, c'est, ça sera la conclusion, Jean 7, 16. Parce que les Juifs s'étonnaient, ils disaient, mais comment est-ce qu'il peut connaître les Écritures, lui qui n'a pas été à la, au séminaire, quoi, lui qui n'a pas étudié. Et Jésus leur répondit, page 112, 7, Jean 7, 16 et 17, et Jésus leur dit, « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. » Et donc il va y avoir ce témoignage intérieur comme l'Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si on veut faire la volonté de Dieu, on va avoir, on va dire, « Mais c'est vrai, c'est tout, toute cette parole est la vérité. » Et on va savoir que ça vient de Dieu et non pas seulement d'un homme qui serait passé par là, qui serait né par hasard. Voilà, donc ça c'est un peu le l'arrière-plan dans lequel on va voir le Nouveau Testament. Et la semaine prochaine, on regardera vraiment les évangiles, les quatre évangiles. On va peut-être parler des autres évangiles. Ça aussi, c'est quelque chose de fréquent. Il y a toujours, chaque année, dans la vie d'un magazine en France, il y a un ou deux numéros sur, sur la comparaison, la Bible, le Coran, et puis sur les nouvelles découvertes archéologiques bibliques avec les nouveaux évangiles. Et ils ressortent ça à chaque fois parce que ça, ça fait vendre les gens. Se disent, ah bon, tiens, je... Et en fait, il n'y a aucune base sérieuse sur toutes ces choses, mais ça fait vendre du papier. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a, sur ce qu'on a vu?
Dans Luc 11, verset 37. Il y a un autre mot pour cela, il dit, pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il n'avait pas fait les ablutions pendant le repas. Le mot ablution, est-ce qu'il y a autre chose?
Se laver les mains. Et c'est drôle d'ailleurs, aujourd'hui encore, les juifs traditionnalistes, les juifs orthodoxes, avant d'aller prier contre le mur à Jérusalem, le mur des Lamentations, ils se lavent les mains de façon cérémoniale. C'est pas pour être propre, mais c'est pour dire qu'ils se sont, ils ont fait leurs ablutions. C'est ça, quoi. Et donc on voit, oui, comment ils étaient légalistes, quoi. Ils disaient, on peut pas. Et encore une fois, c'est intéressant de voir ça et de se dire, est-ce que moi-même, est-ce que j'ai pas du légalisme? Ça peut être, par exemple, dans la façon de prier pour un repas. Moi, je suis plus à l'aise que si je prie avant le repas. Mais rien ne dit qu'on ne peut pas prier pendant le repas et dire, Seigneur, c'est vraiment bon, merci. Alors que c'est pas par la foi, c'est vrai. Ou même après. Et alors ça ne veut pas dire que, mais on peut avoir la tendance, ou alors on se sent très mal à l'aise si on est dans un groupe, ou alors on prie pour soi-même, Seigneur, et de voir est-ce que c'est sérieux ou est-ce que c'est un réflexe. Alors je crois que c'est bien d'honorer Dieu et de reconnaître que tout vient de lui, mais la façon dont on le montre, Moi-même, je peux être légaliste. Je peux dire, ah non, il faut... Ou alors, si on prie, on touche rien avant de prier. Avec les enfants, tu sais ce que c'est. Vous savez ce que c'est pour les papas ou les mamans. Et donc, Jésus faisait toujours la différence entre les apparences, le rituel. Dans ce verset, c'est un très bon exemple. Vous pouvez faire ce qui est bien du dehors, mais à l'intérieur, c'est sale. Et donc là, le titre, c'est « Il censure les scribes et les pharisiens ». Donc, il s'attaque à ces traditionnalistes et les docteurs de la loi, etc. Oui, non, c'est très fort. Il ne cherchait pas à se faire des amis, là. Il se prendrait une chaussure sur la figure, hein, si à l'Assemblée nationale. Ouais. Voilà, on va terminer par un mot de prière s'il n'y a pas d'autres questions.